plus d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Je voudrais, avant toute chose, réparer un oubli impardonnable. Dans ma précédente émission sur les femmes russes dans la Révolution, je n'ai pas mentionné Jean-Jacques Marie, un historien spécialiste de la Russie, dont le livre « Les femmes dans la Révolution russe » m'a beaucoup servi pour ce thème des femmes russes. Aujourd'hui, je continue sur celles que je considère comme des héroïnes, même si malheureusement elles sont allègrement oubliées par celles et ceux qui s'intéressent au combat des femmes. J'avais évoqué précédemment comment ces femmes, qui désiraient former dans le peuple des socialistes, en arrivèrent à mener une lutte plus agressive. Ces femmes commencèrent par faire de la propagande, mais cette dernière était sévèrement réprimée, et les quelques droits que possédaient les paysans étaient bafoués par les administrations locales au service des grands propriétaires terriens. La répression sous Alexandre II, surnommé le tsar libérateur, en raison de son abolition du servage, fut épouvantable. Ainsi, 67 000 sujets sont déportés en Sibérie et 2 000 insoumis, rebelles de tout genre, sont condamnés à la pendaison. Seulement, le tsar, trouvant que les condamnations politiques n'étaient pas assez sévères, il les alourdit. En 1878, le 24 janvier exactement, un événement va marquer un grand tournant dans l'histoire des femmes russes et de la Révolution. Vera Zasulich, une jeune aristocrate, tire sur le chef de la police et le blesse. Elle était adhérente d'une organisation créée en 1860, disparue 2 ou 3 ans après, mais ayant laissé son nom, Zemlya i Volya, Terre et Liberté en français. Des étudiants la reconstituent en 1875. L'initiative de Vera est personnelle. Sa défense reposait sur le fait qu'elle voulait attirer l'attention sur l'injustice de Trepov, le chef de la police. En effet, ce dernier avait fait donner 100 coups de fouet à un prisonnier pour refus d'ôter son chapeau. Elle fut acquittée et devint une célébrité mondiale puisque la Revue des Deux Mondes, revue très conservatrice, la présentait comme une des grandes personnalités russes. Un drame fut écrit. Ce drame portait son nom comme titre. Il fut donc créé, et même interdit, en Italie. Alexandre II se vengera avec le décret impérial du 20 juillet 78, stipulant que les délits politiques seraient désormais jugés par des tribunaux militaires. Cela va avoir pour conséquence une scission du groupe Zemlya i Volya en 1878. D'un côté, ceux qui, comme Vera Zasulich et Georges Plekhanov, refusaient le terrorisme comme seul moyen contre le tsarisme. De l'autre, ceux qui, comme Gelyabov, Vera Finier, Sofia Perovskia, pensaient que seul le terrorisme pouvait renverser le tsarisme intraitable. Vera Finier, dans ses mémoires d'une révolutionnaire, justifie ce choix. La raison nous disait qu'il fallait suivre nos camarades terroristes. Le sentiment nous portait vers le monde des déshérités. Ce sentiment fut plus tard justement défini comme l'aspiration à une vie pure, à une sorte de sainteté. Nous sûmes le vaincre, renoncer à la satisfaction morale de la vie avec le peuple et nous ranger fermement avec les camarades dont le sens politique devançait le nôtre. Ils sont plus nombreux à suivre la voie du terrorisme, et c'est ainsi qu'ils créent Narodnaya Volya, dont j'ai parlé dans la précédente émission. Le but de cette organisation était l'abdication d'Alexandre II pour une assemblée nationale constituante du peuple pour préparer la grande réforme sociale qu'ils appellent de tous leurs vœux. Les jeunes gens des deux sexes se retrouvaient pour discuter des actions à mener. On trouve là des femmes comme Sofia Perovskaya, qui, je le rappelle, sera la première femme russe à être pendue, Anna Korba Verafinie, qui écopera de 20 ans de prison, Jessie Elfman, qui mourra en prison après son accouchement, Olga Lyubatovitch, qui fut exilée en Sibérie pendant 23 ans, Maria Otchanina et tant d'autres femmes encore. Dès 1878, une série d'attentats sur les hauts dignitaires et sur le tsar entraîne des milliers d'emprisonnements, internements et exils sur simple mesure administrative. Mais rien n'arrête la détermination de cette jeunesse issue des hautes classes de la société à tuer le tsar Alexandre II, espérant ainsi soulever la paysannerie russe, comme l'avait prédit Karl Marx en 1877 dans un article adressé à la revue Les Notes Nationales. En voici un extrait. L'empereur se démènera entre la peur devant la noblesse et la peur devant la paysannerie déchaînée. Les serfs, excités à l'extrême par leurs grandes espérances et considérant que les nobles lient les mains du tsar, se soulèveront inéluctablement. Alors ce sera le 1793 russe. La domination de la terreur que feront régner ces serfs à demi-asiates sera sans exemple dans l'histoire, mais elle constituera un second point tournant dans l'histoire de la Russie. Verafinie, toujours dans « Mémoire d'une révolutionnaire », a laissé son souvenir de la préparation de l'attentat contre le tsar Alexandre II, dans lequel il perdra la vie en 1881, rendant ainsi hommage à Sofia Perovskaya. Sans le calme, la présence d'esprit et l'initiative de Perovskaya, le régicide aurait très bien pu n'être pas accompli ce jour-là. Cet attentat ne souleva pas les paysans. En revanche, ce fut la décapitation de l'organisation, ainsi que l'écrit Verafinie. Les piliers de notre organisation n'étaient plus parmi nous. Nous avions perdu les membres du comité exécutif, perdu les agents du comité, perdu quantité d'autres camarades, ouvriers et intellectuels indispensables à notre œuvre par la variété de leurs talents. C'était le désert. La majorité des femmes furent arrêtées. Deux d'entre elles furent condamnées à la pendaison. Sofia Perovskaya, qui sera donc la première femme russe pendue, et Jessie Elfman, qui évitera la pendaison du fait de sa grossesse, mais qui mourra quelques jours après son accouchement en prison. Sofia Perovskaya a laissé une longue lettre à sa mère avant son exécution. Elle lui parle de son amour pour elle, mais aussi de sa détermination. En voici un extrait. « Je ne me désole pas de mon sort. Je le rencontre avec un calme total, car je savais depuis longtemps et je m'attendais à ce que cela se produise tôt ou tard. Et à dire vrai, ma petite maman, il n'est pas si sombre que cela. J'ai vécu comme mes convictions me poussaient et je n'étais pas en état d'agir contre elles. C'est pourquoi j'attends la conscience tranquille, tout ce qui est devant moi. » Un petit intermède avec un chant populaire russe, « Le rocher sur la Volga ».
На Волге утес диким охом оброс, он с вершины до самого края. Вершине его.
Alexandre III, le successeur d'Alexandre II, crée la police politique qui embauchait ses informateurs chez les concierges, que des hommes. Preuve s'il en est que les femmes étaient craintes par le gouvernement pour leur détermination infaillible à changer cette société. C'est aussi la multiplication des agents, des provocateurs, des infiltrés dans les organisations révolutionnaires qui se forment vers les années 1890. Alexandre III, en tant que monarque de droit divin, se voit en père de son peuple et pour bien conforter cette image, il joue le protecteur des ouvriers. Aussi crée-t-il une inspection du travail, interdit-il l'embauche des enfants en dessous de 12 ans et il limite la durée du travail à 8 heures pour les enfants de 12 à 15 ans. Il va même en 1885 jusqu'à interdire le travail de nuit des femmes et des enfants et à exiger le paiement des salaires en argent et non plus en nature. À se servir des amendes, souvent lourdes, des ouvriers, à l'amélioration des conditions de travail. Mais rassurez-vous, ces lois resteront à l'état de théorie, faute de volonté gouvernementale et d'un corps de fonctionnaires attachés à cette tâche. Je ne parle pas de l'école devenue interdite aux enfants du bas-peuple. En effet, l'école est le berceau des révoltes, des révolutions. En revanche, il veut se moderniser et achète du matériel à l'étranger. Cela coûte cher. Alors, la Russie vend ses céréales et son sucre au prix le plus bas du marché. « Nous ne mangerons pas à notre faim, mais nous exporterons !» déclare le ministre des Finances. Résultat, en 1891, la famine se déclare, suivie d'une épidémie de choléra, et le bilan des morts s'élève à plusieurs centaines de milliers. Un petit intermède avec l'hymne des tsars. Imaginez bien que ce tsar n'éteint pas la tentation terroriste ni l'envie d'une révolution politique, sociale, économique et intellectuelle. En 1890, on dénombre 1 433 000 ouvriers et ouvrières sans organisation et sans tradition, car la classe ouvrière est assez jeune. Je rappelle qu'en 1865, la Russie ne comptait que 706 000 ouvriers. Donc pas de parti politique, pas de syndicat, puisqu'ils sont interdits. La journée de travail varie entre 14 et 16 heures, les salaires sont très bas, ainsi une femme gagne 5 à 8 roubles par mois, alors qu'un homme gagne 10 à 18 roubles par mois. Quant aux adolescents, cela fait 3 à 5 roubles par mois. Le salaire d'une femme correspond donc à 120-150 kg de pain, car 1 kg de pain est équivalent à 5 ou 8 kopecks. Quant au beurre, une livre de beurre vaut un tiers d'un rouble, soit 30 à 35 kopecks. La moyenne du nombre d'enfants dans une famille s'élevait à 6. On imagine donc aisément les conditions de vie. Ajoutez à cela l'abominable condition des femmes dont j'ai parlé dans la précédente émission. À la campagne, le petit plus vient des 200 000 popes, ivrognes invétérés, superstitieux, incultes, qui gèrent les populations paysannes pour les maintenir dans l'abrutissement. Aucun confort à la campagne comme à la ville. La vermine grouille, l'eau n'est pas traitée. Saint-Pétersbourg, dont le centre est une merveille, voit dans ses faubourgs des épidémies de typhus et de choléra qui font 20 000 morts par an. À cela, il faut ajouter la syphilis, qui décime à peu près le même nombre. Sous Alexandre III, selon l'historienne Marie-Pierre Rey, la mortalité atteignit 60% dans les quartiers les plus pauvres. Au début de l'année 1917, l'état de ces quartiers était toujours aussi déplorable et insalubre. Mais le sort des ouvrières était encore plus dramatique. Une ouvrière enceinte ne pouvait quitter son travail qu'aux premières contractions et elle devait le reprendre le lendemain de l'accouchement, sinon c'était l'amende exorbitante, voire le licenciement. Vous imaginez le nombre de fausses couches. Et en raison du manque d'hygiène et des conditions d'allaitement, un tiers des enfants d'ouvrières mouraient avant un an. Il ne faut pas croire que les ouvriers des deux sexes ne se révoltaient pas, mais les grèves étaient réprimées avec brutalité, suivies par la répression des révolutionnaires. Les femmes se mobilisèrent, voulant participer aux organisations clandestines. Parfois, dans certains groupes, elles étaient exclues, sous prétexte qu'un homme ne pourrait pas contrôler son comportement. Un groupe s'ouvrit aux femmes, celui de l'étudiant Brousnev à Saint-Pétersbourg. Une section féminine se créa avec 12 femmes, 12 ouvrières. Ce groupe vivait en communauté. Les tâches étaient réparties égalitairement, mais tous les membres de ce groupe furent arrêtés en 1892. Trop dangereux, selon les autorités. Les femmes seront toutes condamnées à 2 ans d'exil. L'année suivante, 2 étudiantes créèrent la Société Mutuelle Philanthropique Russe des Femmes. Mais cela relevait plus d'un secours aux femmes dans le besoin. Avec l'arrivée de Nicolas II au pouvoir, suite à la mort de son père en 1894, les événements s'accélérèrent et la lutte contre le tsarisme reprit de plus belle. En effet, à son avènement, un vague espoir de changement s'éveilla. Mais non, le fils sera encore plus brutal, plus ignare et plus imbu de son pouvoir divin que son père Alexandre III. Et voici un chant cosaque. Les vaillants cosaques, qui, je le rappelle, étaient le bras armé le plus efficace du tsarisme. Volia renaît de ses cendres, constituant des groupes de socialistes révolutionnaires dans une dizaine de villes. L'amnistie du couronnement de Nicolas II ramène Ekaterina Breshko-Breshkovskaya de son exil sibérien. Elle soutient ces groupes et crée avec le socialiste révolutionnaire Grégory Gertchouni un petit parti clandestin, le Parti ouvrier de la libération politique de la Russie. Ekaterina, qui avait commencé la lutte dans l'idée d'humanisme chrétien, se tourna alors à partir de 1901 vers le combat, la lutte, l'attentat. Elle créa cette année-là l'organisation de combat du Parti Socialiste Révolutionnaire. Alors commença une période d'attentats qui atteignirent des ministres. Il faut être clair, comme dans tout terrorisme, c'est l'autocratie, c'est le pouvoir démesuré, injustifié et injuste qui poussait ses étudiants à la violence. Je rappelle qu'en 1905, un projet aurait dû se mettre en place, l'explosion du Palais d'Hiver par un groupe de terroristes ceinturés de bâtons de dynamite. Le projet a échoué, sinon on en aurait entendu parler. Le nombre de femmes issues de la bourgeoisie ou de la noblesse grossit dans les organisations politiques. Parmi ces femmes, certaines auront des postes importants lors de la révolution de 1917 et même sous Staline, comme Rosa Zalkide, future dignitaire du régime stalinien. Elle obtient le poste de vice-présidente du Conseil des commissions du peuple de l'URSS, qui était, il faut le dire, la plus haute autorité gouvernementale du régime. Elle fut aussi la première femme à être décorée de l'ordre du drapeau rouge. Vous remarquez qu'elle passa au travers de toutes les purges staliniennes, bien qu'elle soit issue d'une riche famille de commerçants juifs et qu'elle soit une femme. Une femme sera la tête pensante de la social-démocratie, Ekaterina Kouskova. Ce mouvement fondé sur l'économisme tombera vite dans les oubliettes. En effet, ce système qui reposait sur une organisation et une lutte ouvrière, qui réduisait l'organisation et la lutte ouvrière à la défense de leurs propres revendications et de leurs propres intérêts, laissait la politique à la bourgeoisie libérale. Les mouvements révolutionnaires ne pouvaient être qu'en désaccord avec ce système. En 1894, Nadezhda Krupskaya, engagée dans l'alphabétisation des ouvriers et ouvrières illettrés, travailla même pour Tolstoï qui tenait à ce que les paysans de son domaine soient instruits. Léon Tolstoï faisait ainsi résumer des œuvres populaires dans un langage simple afin que ses paysans accèdent à la culture, à l'instruction. En février de cette année 1894, la jeune Krupskaya assiste à une réunion marxiste. Lorsqu'on attire l'attention de Vladimir Ulianov, le futur Lénine, sur l'importance et le succès du comité de lutte contre l'analphabétisme. Pour lui, cela ne peut être qu'une plaisanterie. Mais Nadezhda, militante active de ce comité, le convainc de se rendre sur place. Devant des ouvriers motivés et lucides sur leurs conditions de vie à l'usine, prêts à la discussion, Lénine est vaincu. Tellement vaincue qu'elle deviendra son épouse. En 1896, les ouvrières et les ouvriers du textile à Saint-Pétersbourg se mettent en grève et manifestent. Les Cosaques sont envoyés et sabrent sans état d'âme hommes, femmes et enfants. Quelques années plus tard, Alexandra Kollontai leur rendra hommage. Voici un extrait de son écrit. Lors des grèves économiques de 1894-1896 à Saint-Pétersbourg et lors de la grève historique des ouvriers du textile en 1896, les ouvrières et les ouvriers débrayèrent ensemble à l'unanimité. Lors des conflits et des grèves, la femme prolétaire opprimée, timide, sans droit, apprend d'un coup à se tenir debout et toute droite. La participation au mouvement ouvrier rapproche l'ouvrière de sa libération, pas seulement en tant que vendeuse de sa force de travail, mais aussi en tant que femme, épouse et ménagère. Mais dès que la vague de grève se calma et que les ouvriers retournèrent au travail, soit après une victoire, soit après une défaite, les femmes se retrouvèrent à nouveau éparpillées et isolées. Je veux terminer cette deuxième émission sur les femmes russes sur Alexandra Kollontai, commissaire du peuple à la protection sociale dans le premier gouvernement bolchevique en 1917 et donc première femme ministre dans le monde. Née en 1872, fille unique d'un général issu de la noblesse terrienne, Alexandra recevra une excellente éducation polyglotte. Elle refuse en 1889 un mariage arrangé et épouse à 20 ans un officier, Vladimir Kollontai, dont elle a un enfant. Mais en 1896, elle rompt avec sa famille, son milieu, son mari, pour partir étudier à Zurich. C'est là-bas qu'elle deviendra marxiste, au contact de tous les Russes qui se retrouvent en Suisse, qui montent des cercles, des comités, tous révolutionnaires. C'est ainsi qu'elle se liera avec Lénine. Revenue en Russie, elle participera à la révolution de 1905, celle du cuirassé Potemkin. En 1914, pacifiste convaincue, elle rejoindra les bolcheviks et en 1917 participera à la révolution et deviendra commissaire du peuple et donc la première femme à participer à un gouvernement. Alexandra Kollontai a travaillé activement à l'émancipation des femmes, non pas dans une optique bourgeoise qui met en avant la domination des sexes, détournant ainsi de la lutte de classe. Elle a participé à la création de la Journée internationale des droits des femmes avec Clara Zetkin. Et lorsqu'elle fut au pouvoir, elle obtint le droit au divorce par consentement mutuel, le salaire égal à celui des hommes, des congés de maternité, l'égalité de reconnaissance entre enfants légitimes et naturels, et le droit à l'avortement en 1920. Oui, c'est Alexandra Kollontai, une Russe qui obtint ce droit en URSS. C'est elle qui est un exemple, et non pas Simone Veil qui n'a rien fait d'autre que donner son nom à une loi que réclamaient femmes et hommes et qui existait déjà dans d'autres pays. Il faut se souvenir que Simone Veil n'avait pas, en 1971, signé le manifeste des 343, une pétition qui appelait à la légalisation de l'avortement. Alexandra Kollontai théorisa aussi l'amour libre, l'amour camaraderie, qui est à l'origine du concept du polyamour. Petite parenthèse, le socialiste utopiste Charles Fourier en avait défini les bases en 1816, mais son livre « Nouveau monde amoureux » ne fut publié qu'en 1967. Elle militera aussi pour l'abolition des lois réglementant la prostitution, qui est une violence que s'inflige une femme à elle-même pour des raisons financières. Le scandale de cette réglementation, c'est qu'elle retombe entièrement sur les femmes des classes les plus pauvres. Devant les prostituées riches, la police, comme les règlements, ne font qu'ôter poliment leur chapeau, écrit-elle, et elle obtiendra gain de cause. À partir de 1924 et jusqu'en 1945, sa carrière deviendra diplomatique et sera très souvent couronnée de succès. En 1945, elle s'installe à Moscou, où elle mourra en 1952. C'est sur un chant polonais écrit en 1893 et qui devint en 1897 un chant révolutionnaire, un chant de contestation contre les internements sous le tsar, que je clôt cette émission. Voici donc la Varsovienne.
Станем ли братьями?
Bonnes journées à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang 89.7 FM.